Chapitre 3. Le monsieur de l'entresol. Le 63 du quai Voltaire est un hôtel particulier qui dresse le long de la Seine sa vieille façade grise à très hautes fenêtres. Le rez-de-chaussée, presque tout entier, et les trois quarts de l'entresol sont occupés par les magasins d'un antiquaire et par ceux d'un libraire. Au premier étage et au second, c'est le vaste et luxueux appartement du marquis d'Erlemont, dont la famille possède l'immeuble depuis plus d'un siècle. Fort riche jadis, quelque peu gêné maintenant à la suite des spéculations, il a dû restreindre son train de maison et réduire son personnel. C'est la raison pour laquelle il avait distrait de l'entresol un menu logement indépendant, composé de 4 pièces, que son homme d'affaires consent à louer quand un amateur a la délicatesse de lui offrir un sérieux pot de vin. À cette époque, et depuis un mois, le locataire était un monsieur Raoul, qui ne couchait que rarement et ne venait guère qu'une heure ou deux chaque après-midi. Il habitait au-dessus de la loge de la concierge et au-dessous des pièces qui servaient au secrétaire du marquis. On entrait dans un vestibule obscur qui conduisait dans le salon. À droite, une chambre. À gauche, la salle de bain. Cet après-midi-là, le salon était vide. Des meubles peu nombreux et qu'il semblait qu'on eût réunis au petit bonheur le garnissaient. Aucun arrangement, aucune intimité. Une impression de campement où des circonstances passagères vous ont amené et que le caprice du moment vous fera quitter à l'improviste. Entre les deux fenêtres, qui avaient vu sur l'admirable perspective de la Seine, un fauteuil tournait le dos à la porte d'entrée, haussant son vaste dossier à capiton. Tout contre ce fauteuil, à droite, un petit guéridon supportait un coffret qui avait l'apparence d'une cave à liqueur. Une horloge plantée contre le mur, dans une gaine étroite, sonna 4 fois. 2 minutes s'écoulèrent. Puis, au plafond, il y eut 3 coups frappés, à intervalles réguliers, comme les 3 coups qui annoncent au théâtre le lever du rideau. 3 coups encore. Puis, soudain, retentit quelque part du côté de la cave à liqueur un timbre précipité, comme celui du téléphone, mais discret, étouffé. Un silence. Et tout recommença. 3 coups de talon, le grelottement sourd du téléphone. Mais cette fois, l'appel ne prit pas fin et continua à jaillir de la cave à liqueur comme d'une boîte à musique. « Oh ! Crebleu de crebleu de crebleu !» grogna dans le salon la voix éraillée de quelqu'un qui s'éveille. Un bras surgit lentement, à la droite du vaste fauteuil tourné vers les fenêtres. Un bras qui s'allongea vers le coffret du guéridon. Un bras dont la main souleva le couvercle du coffret et saisit le récepteur téléphonique qui se trouvait logé à l'intérieur. Le récepteur fut amené de l'autre côté du dossier, et la voix, plus nette, du monsieur invisible qui se vautrait dans le creux du fauteuil, grommela
« Oh, oui, oui, c'est moi, Raoul.
Tu peux donc pas me laisser dormir, Courville ? Oh, quelle idée stupide j'ai eue de mettre en communication ton bureau et le mien. Tu n'as rien à me dire, n'est-ce pas ? Flûte, je dors !» Il raccrocha. Mais les coups de talon et l'appel téléphonique fonctionnèrent de nouveau. Alors, il céda. Et un dialogue en sourdine s'établit entre M. Raoul, de l'entresol, et le sieur Courville, secrétaire du marquis d'Erlemont.
Oh, « Parle, dégoise. Le marquis est chez lui ?»«
Oui. » « Et le sieur Valtex vient de le quitter. »«
Valtex ? Valtex, aujourd'hui encore ? Oh, sacrebleu ! Le personnage m'est d'autant plus antipathique qu'il poursuit évidemment le même but que nous. Et que ce but, il doit le connaître. Tandis que nous, nous l'ignorons. As-tu entendu quelque chose à travers la porte ?»«
Rien. »«
Oh, tu n'entends jamais rien. Alors pourquoi me déranges-tu ? Laisse-moi dormir, sacrebleu. Je n'ai rendez-vous qu'à 5 heures pour aller prendre le thé avec la magnifique Olga.
Il referma. Mais la communication avait dû le réveiller tout à fait, car il alluma une cigarette, sans néanmoins quitter le creux de son fauteuil. Des ronds de fumée bleue montaient au-dessus du dossier. L'horloge marquait 4h10. Et brusquement, un coup de timbre électrique qui venait du vestibule de la porte d'entrée. Et en même temps, entre les deux fenêtres, sous la corniche, un panneau glissa, sous l'action évidemment d'un mécanisme commandé par le coup de timbre. Un espace en forme de rectangle de la longueur d'un petit miroir fut découvert. Un petit miroir illuminé comme un écran de cinéma et qui réfléchissait le visage charmant d'une jeune fille blonde aux bandeaux ondulés.
Monsieur Raoul bondit. « Oh, la jolie fille !»
Il la regarda une seconde.
Non, décidément, il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue.
Il fit jouer un ressort qui ramena le panneau. Ensuite, il se regarda, à son tour, dans une autre glace qui lui renvoya l'image agréable d'un monsieur de 35 ans environ, bien découplé, de tournure élégante et de mise impeccable.
Un monsieur de cette sorte peut recevoir avec avantage la visite de n'importe quelle jolie fille.
Il courut au vestibule. La visiteuse blonde attendait, une enveloppe à la main, une valise près d'elle, sur le tapis du palier.
« Vous désirez, madame ?»«
Mademoiselle. »«
Vous désirez, mademoiselle ?»«
C'est bien ici, le marquis d'Erlemont ?»
Monsieur Raoul comprit que la visiteuse se trompait d'étage. Tandis que la jeune fille avançait de 2 ou 3 pas dans le vestibule, il saisit la valise et répliqua, avec aplomb,
« C'est moi-même, mademoiselle !»
Elle s'arrêta au seuil du salon.
« Ah, on m'avait dit que le marquis était d'un certain âge.
Je suis son fils. »«
Mais il n'a pas de fils. »«
Pas possible. » En ce cas, mettons que je ne sois pas son fils. Bon, ça n'a d'ailleurs aucune importance. Je suis au mieux avec le marquis d'Erlemont, quoique je n'ai pas l'honneur de le connaître. »
Habilement, il la fit entrer et referma la porte.
« Mais, monsieur, il faut que je m'en aille. Je me suis trompé d'étage. »«
Justement, reprenez haleine. L'escalier est abrupt comme une falaise. »
Il avait un air si allègre et des manières si dégagées qu'elle ne put s'empêcher de sourire, tout en essayant de sortir du salon. Mais à ce moment, le même coup de timbre retentit sur le palier. Et de nouveau, l'écran lumineux apparut entre les deux fenêtres, offrant un visage maussade, barré d'une grosse moustache. Il éteignit l'écran.
Zut, la police! Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là?
La jeune fille s'inquiétait, confondue par l'apparition de cette tête.
Je vous en prie, monsieur, laissez-moi partir.
« Mais c'est l'inspecteur principal Gorgeret. Un vilain coco, une rosse, dont la bobine ne m'est pas inconnue. Il ne faut pas qu'il vous voie, et il ne vous verra pas. »«
Il m'est tout à fait indifférent qu'il me voie, monsieur. Je désire m'en aller. »«
À aucun prix, mademoiselle. Je ne veux pas que vous soyez compromise. »«
Je ne serai pas compromise. »«
Si, si. Tenez, veuillez passer dans ma chambre. »«
Non ?»
Alors quoi, il faut bien cependant.
Il se mit à rire, assailli d'une idée qui l'amusait, offrit galamment sa main à la jeune fille et la fit asseoir dans le vaste fauteuil.
Ne bougez pas, mademoiselle. Ici, vous êtes à l'abri de tous les regards, et dans 3 minutes, vous serez libre. Si vous ne voulez pas ma chambre comme refuge, vous acceptez bien un fauteuil, n'est-ce pas ?
Elle obéit, malgré elle, tant son air joyeux et bon enfant se mêlait de décision et d'autorité. il eut un léger sautillement sur place, comme pour manifester son contentement. L'aventure s'annonçait sous les couleurs les plus agréables. Il alla ouvrir. L'inspecteur Gorgeret entra d'un bond, suivi par son collègue flamand, et il cria aussitôt, d'un ton brutal,
« Il y a une dame ici. La concierge l'a vue passer et l'a entendue sonner. »
M. Raoul l'empêcha doucement d'avancer, puis, avec beaucoup de politesse, « Puis-je savoir ?»«
Inspecteur principal Gorgeret, de la police judiciaire. »«
Gorgeret ? Le fameux Gorgeret ? Celui qui a presque arrêté Arsène Lupin ?»«
Et qui compte bien l'arrêter un jour ou l'autre. Mais pour aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. Ou plutôt, d'un autre gibier. Une dame est montée, n'est-ce pas ?»«
Une blonde très jolie ?»«
Si l'on veut. »
Alors ce n'est pas cela. Celle dont je parle est très jolie, remarquablement jolie. Le sourire le plus délicieux, le visage le plus frais.
Elle est ici ?
Elle sort d'ici. Il n'y a pas 3 minutes qu'elle a sonné et m'a demandé si j'étais Monsieur Frossin, demeurant au numéro 63 du boulevard Voltaire. Je lui ai expliqué son erreur et lui ai donné les indications nécessaires pour se rendre au boulevard Voltaire. Elle est repartie aussitôt.
« Oh, quelle déveine !»
Gorgeret, machinalement, regarda autour de lui, jeta un coup d'œil distrait sur le fauteuil tourné et scruta les portes. « J'ouvre ?»«
Inutile. Nous la retrouverons là-bas.
Oh, »« Avec vous, inspecteur Gorgeret, je suis tranquille. »«
Moi aussi. »
Et il ajouta, en remettant son chapeau,
« À moins qu'elle n'ait manigancé quelques tours de sa façon. Ça m'a l'air d'une fiéfée coquine. »«
Une coquine ? Cette admirable blonde ?»«
Enfin quoi, tout à l'heure, à la gare Saint-Lazare, je l'ai presque cueillie à l'arrivée du train où elle était signalée. Et voilà 2 fois qu'elle se défile.
Oh, »« Elle m'a paru si posée, si sympathique. » Gorgeret eut un mouvement de protestation.
Une sacrée femme que je vous dis. Savez-vous qui c'est ? La maîtresse du grand Paul, tout simplement.
Hein ? Le fameux bandit ? Cambrioleur ? Assassin, peut-être ? Le grand Paul que vous avez presque arrêté ?
Et que j'arrêterai comme sa maîtresse, comme cette fouine de Clara la Blonde.
Pas possible. La jolie blonde ? Ce serait cette Clara dont les journaux ont parlé et que l'on recherche depuis 6 semaines.
Elle-même. Mais vous comprenez que la prise a de la valeur. Tu viens, Flamand. Alors, monsieur, pour l'adresse, nous sommes d'accord. Il s'agit de monsieur Frossin, 63, boulevard Voltaire.
Parfaitement. C'est l'adresse qu'elle m'a donnée. Monsieur Raoul le reconduisit et tout en se penchant sur la rampe de l'escalier, d'un ton très aimable, déférent.
« Bonne chance ! Et tandis que vous y êtes, arrêtez aussi le sieur Lupin ! Tout ça, c'est fripouille et compagnie !»
Quand il rentra dans le salon, la jeune fille s'y tenait debout, un peu pâle, avec une certaine anxiété. « Qu'avez-vous donc, mademoiselle ?»«
Rien, rien !» Seulement, voilà des hommes qui m'attendaient à la gare. J'étais signalée.
Alors vous êtes bien Clara la Blonde, la maîtresse du fameux grand Paul ? Elle haussa les épaules.
Je ne sais même pas qui est le grand Paul.
Vous ne lisez donc pas les journaux ?
Rarement.
Et votre nom de Clara la Blonde ?
Je l'ignore. Je m'appelle Antonine.
« En ce cas, que craignez-vous ?»«
Rien. Tout de même, on voulait m'arrêter. On voulait... »
Elle s'interrompit et sourit comme si elle eût compris soudain la puérilité de son émoi.
« J'arrive bien de ma province, n'est-ce pas ? Et je perds la tête à la première complication possible. Adieu, monsieur.
Êtes-vous donc si pressé ? Un moment, j'ai tant de choses à vous dire. Que vous avez... un sourire de joie, un sourire affolant, avec des coins de lèvres qui remontent.
« Je n'ai rien à entendre, monsieur. Adieu. »«
Comment ?
Je viens de vous sauver, et vous m'avez sauvé ?
Dame, prison, cour d'assises, échafaud. Ça mérite quelque chose. Combien de temps restez-vous chez le marquis d'Erlemont ?
Une demi-heure, peut-être.
Eh bien, je vous surveille, au passage. Et nous prenons le thé, ici, en bon camarade.
Le thé, ici ? Oh, monsieur, vous profitez d'une erreur. Je vous en prie.
Elle levait sur lui des yeux si francs qu'il sentit l'inconvenance de son offre, et n'insista pas. Que vous le vouliez ou non, mademoiselle, le hasard nous remettra en présence l'un de l'autre. Et j'aiderai au hasard. Il y a de ces rencontres qui ont inévitablement un lendemain, beaucoup de lendemains. S'arrêtant sur le palier, il la regarda remonter l'étage. Elle se retourna pour lui envoyer de la main un salut gentil. Et il se disait « Oui, elle est adorable. Oh, ce sourire frais. Mais que va-t-elle faire chez le marquis ? Et puis que fait-elle dans la vie ? Quel est le mystère de son existence ? Elle, la maîtresse du grand Paul ? Qu'elle ait été compromise en même temps que le grand Paul, possible. Mais la maîtresse du grand Paul ? Il n'y a que la police pour inventer de telles bourdes. Tout de même, il songea que Gorgeret, après s'être cassé le nez au 63 du boulevard Voltaire, aurait peut-être l'idée de revenir, et qu'il y avait risque de rencontre entre lui et la jeune fille. Cela, à tout prix, il fallait l'éviter. Mais tout à coup, comme il rentrait dans son appartement, il se frappa le front en marmottant « Saperlotte ! J'oubliais !» Et il se mit à courir vers le téléphone, non dissimulé celui-là, qui correspondait avec la ville. « Vendôme 0000 ! Allô ? Dépêchons-nous, mademoiselle ! Allô ? C'est la maison de couture Berwitz. La reine est ici, n'est-ce pas ? Je vous demande si Sa Majesté est là. Elle est en train d'essayer. Eh bien, prévenez-la que M. Raoul est au téléphone. » Il reprit impérieusement. « Pas d'histoire, n'est-ce pas ? Je vous enjoins de prévenir Sa Majesté. Sa Majesté serait fort mécontente si on ne la prévenait pas. » Il attendit en tapotant l'appareil d'un geste nerveux. Là-bas, au bout du fil, quelqu'un se présenta. Il appela. « C'est toi, Olga. Ici Raoul. »« Hein ? Quoi ? Tu as lâché ton essayage. Et tu es à moitié nu. »« Eh bien, tant mieux pour ceux qui ont pu te surprendre au passage. Magnifique, Olga. Ah, tu as les plus belles épaules de l'Europe centrale. Mais je t'en prie, Olga, ne roule pas les airs comme ça. Ce que je veux te dire... Bon, allons bon, j'en fais autant. Eh bien voilà, je ne puis pas venir prendre le thé. » « Mais non, chérie, calme-toi, il n'y a pas de femme là-dessous. C'est un rendez-vous d'affaires. Voyons, tu n'es pas raisonnable. Voyons, mon chou aimé. Tiens, ce soir, à dîner, je viendrai te prendre. D'accord, ma chère Olga ?» Il ferma et rapidement vint se poster derrière sa porte entrebâillée.